Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est adressé hier à la nation et au monde entier. Dans son message, il indexe le silence et la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine au vu des atrocités commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. L'entreprise Safrimex a lancé l'asphaltage des routes de la ville de Kananga. Les travaux ont débuté sur l'avenue du collège vers la localité Kamboté, un tronçon routier long de 860 mètres. Stéphane Goubure est notre invité. Il est le chef de programme de Médecins Sans Frontières MSF et va parler des activités de son organisation à Goma en ce moment où la ville vit des heures sombres. Bonjour à tous. Dans un message au peuple congolais et au reste du monde hier, mercredi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi indexe le silence et la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine au vu des atrocités commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Il déplore l'impunité au profit du Rwanda qui viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, les accords régionaux et toutes les valeurs défendues par ces institutions. Dans cette adresse, Félix Tshisekedi appelle tous ses compatriotes à un soutien indéfectible, moral et matériel aux vaillants soldats des FRDC. Billy Yvan Lutumba.
Le président congolais regrette que les agissements du Rwanda et la présence de ses militaires sur le sol congolais constituent une provocation inacceptable au regard de la souveraineté de la RDC et de la stabilité régionale.
La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable.
Le silence constaté de la communauté internationale et de l'Union africaine déplore le chef de l'État congolais, frise une complicité, martèle-t-il.
Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité.
Devant cette situation telle que décrite, le président congolais Félix Tshisekedi reste déterminé et déclare que la RDC ne se laissera pas humilié, mais se battra pour triompher sur l'ennemi.
Sur place au nord Kivu, la situation est relativement calme ce jeudi dans la ville de Goma, après des affrontements signalés dans la nuit d'hier entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FRDC dans la partie nord de la ville. Toutefois, l'incertitude plane au sein de la population au regard de la présence des rebelles dans plusieurs quartiers de la ville. Les activités socio-économiques restent dans l'ensemble paralysées malgré la reprise progressive de la circulation. Grâce à Mzati.
Selon des sources locales, cette accalmie s'étend même au quartier nord de Goma, où des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti pendant plusieurs heures de la nuit. Les quartiers Katoi, Kibwe, Kasika, Majengo, Bugamba 1 et 2 ainsi que Turunga ont été particulièrement touchés, bien que quelques coups de feu sporadiques aient encore été signalés. Malgré la présence des rebelles, certains habitants se rendent au lac Kivu à la recherche de l'eau. Un acteur de la société civile nous décrit le climat.
Il y a l'eau qui n'est pas en train de couler, il y a l'électricité qui n'est pas jusque-là rétablie, la nourriture qui cause problème parce qu'il n'y a pas vraiment l'approvisionnement total en nourriture à Goma.
Et quant à la circulation des personnes dans la ville?
Si vous arrivez du côté du quartier Murara, hein, là on parle de l'office, du côté du centre-ville, TMK, SNEL, Trois Payotes, il y a une circulation humide déjà. Si vous arrivez Andosso, Mugunga, il y a une circulation. Nous sommes en train de nous poser la question, même si les activités recommencent, parce qu'il y a là où les activités commencent à se faire sentir petit à petit. Mais le mal en est que ce sont ces deuils-là, parce que presque dans tous les quartiers, il y a des deuils. Presque dans tous les quartiers, il y a des corps sans vie. C'est ce qui est en train maintenant de traumatiser, de déstabiliser les citoyens de Goma sur le plan moral, quelle que soit certaines circulations de certains de nos citoyens.
Par ailleurs, des sources concordantes confirment la reprise du trafic sur l'axe Goma-Sake-Minova-Masisi.
Par ailleurs, les habitants de Kiziba 2, un village situé à la limite entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, dénoncent les exactions commises par certains hommes en armes présents dans la zone. Selon les témoignages recueillis ce matin, des individus font du porte-à-porte pour extorquer de l'argent et des téléphones et d'autres biens aux habitants. Cette situation alimente un climat d'insécurité grandissant, poussant certains ménages à fuir la zone. Un acteur de la société civile locale confirme ces faits et invite les autorités du Nord Kivu à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces abus. Il est joint par Ronelly Ntibonera.
Actuellement, là, je vous parle en territoire de Nyiragongo. Là, on appelle communément Kaitage, à Monta. Ce sont les éléments qui sont là, qui sont en train de passer porte à porte pour demander les biens, l'argent et violer même les filles. Vraiment, c'est avec une grande douleur que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous demandons aux autorités s'ils sauraient comment communiquer avec les éléments qui sont dans Nyiragongo, de leur communiquer de ne pas faire des bavures pareilles. Sinon, c'est compliqué. La population de Nyiragongo commence à fuir maintenant.
Ici à Kinshasa, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme lance un SOS à la communauté internationale pour imposer le retrait des troupes du Rwanda et du M23 de la ville de Goma afin de mettre fin aux graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Elle a lancé cet appel ce jeudi au cours d'une conférence de presse face à la situation sécuritaire et humanitaire catastrophique à Goma, province du Nord Kivu. Selon le directeur exécutif de la VSV, les Congolais de cette province ont droit à la vie et à la dignité humaine. On écoute Ronstein Manketa au micro de Jeff Ngoy.
Il est plus que temps que la communauté internationale intervienne avec des mesures concrètes et contraignantes en lieu et place de simples déclarations pour arrêter la guerre du régime du Rwanda en République démocratique du Congo et son soutien militaire et logistique au M23 qui impose des souffrances indicibles à la population de Goma en ce moment. La VSV demande aux autorités, aux autres États, de faire également quelque chose de concret au nom du respect des droits humains dont le fondement et la dignité humaine sont aujourd'hui bafoués à Goma. Selon des sources très concordantes, la situation humanitaire et sécuritaire est très catastrophique à Goma où des corps sans vie jonchent les avenues et les grandes artères. Le bilan des personnes tuées par balle serait déjà de plus de 100 et il est fait état de centaines de personnes blessées par balle.
Pendant ce temps au sud Kivu, le gouverneur suspend toute navigation sur le lac Kivu. Décision motivée par la situation sécuritaire préoccupante dans la province. Cette suspension s'applique à tous les bateaux et autres embarcations de toute nature, qu'ils soient de transport de personnes, des marchandises ou encore des bateaux de pêche. Jean Kassami revient sur cet arrêté de l'autorité provinciale du sud Kivu.
La décision est contenue dans l'arrêté signé hier à Bukavu par le gouverneur professeur Jean-Jacques Purusi. L'arrêté annonce que la navigation est suspendue jusqu'à nouvel ordre, que les contrevenants se verront arrêtés, leurs unités placées sous chaîne, mais aussi des amendes sévères leur seront appliquées. Le gouverneur charge le ministre des Transports, le commandant de la 33e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, et bien d'autres de veiller à l'application stricte des mesures contenues dans cet arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, le 29 janvier 2025, et abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Toujours au sud Kivu, une marche pacifique pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23 a été organisée hier dans la ville d'Uvira. Les manifestants issus de toutes les couches de la population ont envahi l'artère principale d'Uvira. Ils brandissaient des calicots sur lesquels on pouvait lire « Non à l'humiliation de la RDC par le Rwanda, non à la passivité de la communauté internationale, non à la balkanisation de la RDC, oui à l'unité nationale, oui au respect du droit international humanitaire ». La marche s'est déroulée sans incident majeur. Ici à Kinshasa, sit-in à l'université de Kinshasa ce jeudi devant le bâtiment administratif en soutien au chef de l'État, au FRDC ainsi qu'à la population de l'Est du pays. Présents à ce rassemblement, plus de 300 personnes, étudiants comme membres du corps académique, scientifiques et autres personnels. À cette occasion, le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, a invité les professeurs et les étudiants à apporter leur appui afin de défendre le pays. Baben Pongo Masimango.
Camarade D. Méchant, méchant.
Méchant.
Méchant, méchant.
Méchant.
L'université de Kinshasa a ainsi répondu à l'appel de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Le recteur de l'UNIKIN exhorte le corps scientifique à apporter des solutions par son savoir. Jean-Marie Kayembe.
L'UNIKIN, comme une famille, apportons des solutions par notre savoir. Notre savoir partira notamment de la faculté de sciences par ce qui peut assurer la détonation. Nous avons plusieurs facultés dans ce sens, polytechnique, je vois celle de sciences, je vois celle de physique, mais je vois également l'agronomie et nutrition.
Nous sommes capables de fabriquer toutes sortes d'armes, affirme le professeur Lobo Yambele, président de l'APUKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa.
Avec nos physiciens, nos polytechniciens, nos chimistes, nous sommes capables de fabriquer toute arme possible.
Oui, 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 oui.
Et les étudiants polytechniques, les physiciens, les chimistes et leurs maîtres, ils ont du pain sur la planche. L'université a une réponse à apporter.
Le corps administratif de l'université de Kinshasa promet à son tour d'apporter un soutien financier au FARDC et à la population de l'Est du pays.
Quant à la marche de soutien au FARDC et au président de la République sur toute l'étendue du Haut-Katanga, elle est annulée. La décision est du Conseil provincial de sécurité qui s'est réuni hier à Lubumbashi. Pour faire respecter cette décision, des mesures sécuritaires sont prises. Une sévère mise en garde est faite contre tout récalcitrant. Entre-temps, la société civile du Haut-Katanga appelle tout le monde au calme. Au Kasaï central, l'entreprise Safrimex a lancé l'asphaltage des routes de la ville de Kananga. Les travaux ont débuté sur l'avenue du collège vers la localité Kamboté, un tronçon routier long de 860 mètres. Le gouverneur de province qui a inspecté le lieu se dit satisfait. François Kadima.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de modernisation de 42 km de la voirie urbaine de Kananga. Ils sont exécutés par l'entreprise Safrimex avec les bureaux centrales de coordination Beseco, qui est maître d'ouvrage délégué. Après les travaux de canalisation des eaux sur plusieurs avenues de la ville et l'installation de son concasseur, l'entreprise a débuté le bitumage par l'avenue du collège. L'ingénieur Ismaël Fadi de Safrimex explique les phases qui accompagnent ces travaux.
On a d'abord enlevé toutes les couches qui sont mauvaises, on a mis une couche de fondation, on a compacté, on a testé les biens, on a mis les couches de base. On a encore compacté, on a testé, c'est bien.
Le gouverneur de province qui a inspecté ces travaux s'est dit satisfait et s'est engagé à faire les suivis. Joseph Moïse Kamboulou.
Moi j'aime ça. Moi j'aime quand je vais. On a dit on va asphalter. Ils ont asphalté. Je suis content. Pas de racontar, pas de. Il faut que ça continue comme ça.
Signalons qu'une équipe de la présidence également à Kananga a inspecté ces travaux de modernisation de 40 km de la voirie urbaine de Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La capitale de l'Ouganda, Kampala, est confrontée à une épidémie d'Ebola qui a déjà fait un mort, a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé ougandais. La victime est un infirmier de 32 ans qui travaillait à l'hôpital national de Mulago dans la capitale. Le patient a souffert d'une défaillance de plusieurs organes et a succombé à la maladie hier mercredi. Les autorités ont souligné qu'aucun autre professionnel de la santé ou patient du service n'a présenté des signes ou de symptômes d'Ebola. Des équipes d'intervention rapide ont été mobilisées et 44 contacts du patient qui ont jusqu'à présent été identifiés seront tous vaccinés selon la même source. La dernière épidémie d'Ebola en Ouganda avait été déclarée en 2022. Elle avait causé la mort de 55 personnes.
L'invité.
Alors que la situation humanitaire se dégrade dans la ville de Goma, Médecins sans frontières affiche une certaine détermination à venir en aide aux populations bloquées dans la ville. Selon Stéphane Goubure, chef de programme MSF présentement à Goma, face à l'urgence, ses équipes s'activent dans la fourniture d'eau potable et d'une assistance sanitaire. Il indique que la priorité est accordée à la prise en charge des blessés de guerre enregistrés lors des combats. Il s'entretient avec Ronelly Ntibonera.
Monsieur Stéphane Goubure, bonjour.
Bonjour.
Que retenir actuellement de la situation humanitaire dans la ville de Goma où les MSF travaillent?
Elle est très difficile à identifier avec exactitude. Parce que pour le moment, les gens commencent un petit peu à bouger, mais avec parcimonie, parce que la sécurité est toujours assez instable. Donc les gens bougent très peu et il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, pas d'eau accessoirement, mais pour avoir une vision globale des besoins de la population, évidemment, le réseau et les capacités de déplacement sont importantes. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. On a pris des contacts avec les premiers hôpitaux en plus des structures qui étaient supportées avant l'attaque sur la ville, dont opérationnelles. On a des équipes CIR qui opèrent à côté des chirurgiens congolais et des chirurgiens du CICR pour essayer de répondre à un afflux de blessés qu'on sait qui est massif. Pour l'instant, il y a des matériels chirurgicaux qui est déposé à l'hôpital général de Virunga. Donc, on essaie de pallier au plus pressé, en sachant que nous avons malheureusement perdu une partie de nos moyens dans les pillages en ville. Donc, il y a des stocks qui ont disparu. Donc, on essaie de faire vraiment de pallier au plus pressé avec les moyens qui nous restent pour essayer de sauver. Parce que les heures présentes sont les heures cruciales pour les blessés et pour d'autres besoins humanitaires d'urgence.
Alors, lorsque vous parlez des besoins humanitaires d'urgence, je vais parler, par exemple, des camps de Kanyaruchinya, mais également Lushagala. Je vais dire la distribution d'eau potable auprès de la population. Est-ce que ces genres d'appui sont encore observés sur le terrain ou vous avez changé d'approche?
La situation est très différente selon les camps. Et donc, il y a des camps dans lesquels l'accès à l'eau est toujours garanti. Il y en a d'autres où, malheureusement, le matériel a disparu. Donc, le matériel de distribution d'eau a disparu. Qui pouvait être utilisé a été disparu. Donc, il n'y a plus de latrine, plus de douche et plus de distribution d'eau. Camp de l'axe nord de Kanya, dont vous parlez, et malheureusement, Kanya, à ce stade, nous ne pensons pas que nous sommes en mesure d'y aller, que la situation n'est pas suffisamment stable sur la route pour y arriver.
Ça fait 4 jours que les combats sont signalés dans la zone. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les nombres de blessés déjà enregistrés par les structures que vous soutenez, mais également peut-être de morts?
Non, les chiffres que je serais capable de vous donner seraient de toute façon une fraction de la réalité, parce que nos collègues congolais en venant, ceux qui ont pu se déplacer pour venir au bureau et recommencer le travail, nous ont parlé de beaucoup de morts. Les morts sont en train d'être collectés par la Croix-Rouge congolaise et le CICR, mais il y en avait beaucoup. Et des blessés, c'est très difficile. Aussi, je pourrais vous donner le nombre de ceux qui ont été soignés par Médecins sans frontières et le CICR, mais il y a des blessés partout et il y a probablement des blessés qui maintenant n'ont pas eu accès aux hôpitaux. Donc, malheureusement, des chiffres exacts, je ne peux pas vous les donner, mais je peux vous dire que les structures médicales sont débordées. Ça c'est confirmé et qu'il y a probablement encore beaucoup de cas qui vont sortir dans les heures et peut-être dans les jours qui viennent.
Tenant compte de la cartographie et des besoins humanitaires urgents, qu'est-ce qui est priorisé actuellement par MSF dans la région de Goma?
Les blessés. Une priorité, c'est vraiment de répondre aux blessés, mais juste après, vous savez, il y a le support déplacé. Vous savez que le choléra était endémique dans les camps autour de Goma. Nous avons une structure, un centre de santé qui a continué à recevoir 15 cas par jour à l'est en direction de Tapé. Donc la priorité pour nous, c'est d'aller ravitailler ces structures-là, et de prévenir la diffusion d'épidémies telles que le choléra et de répondre à ces besoins-là, et de faire un appel aussi pour que d'une manière ou d'une autre, l'eau soit rétablie et l'électricité en ville, parce que tant que cela n'est pas fait, vraisemblablement, la situation va continuer à détériorer.
Vous avez perdu une partie de votre matériel dans les pillages à Goma. De combien de moyens vous avez besoin pour mettre en œuvre certaines activités que vous jugez prioritaires?
On doit faire un point de tout ça, mais vous devez savoir que ces stocks-là n'étaient pas des stocks qui étaient destinés à répondre à un événement tel que celui de la semaine passée. C'était destiné à supporter des structures existantes, ici à Goma, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le Nord Kivu, à partir de Goma, où des structures médicales, des hôpitaux sont supportés par MSF et même plus de Kivu aussi. Donc les besoins globaux, certains stocks sont intacts. Avec ces stocks-là, nous allons répondre aux besoins des blessés en priorité. Et puis nous allons essayer de trouver des sources d'approvisionnement, moyens d'amener, de remplacer ce qu'on a perdu et de pouvoir répondre aux besoins urgents de la population. Mais pour ça, on va devoir réorganiser des chaînes logistiques de supply, de procurement de supply, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots en français, mais d'approvisionnement, en médicaments et en matériel médical.
Un dernier message ou un appel à lancer à la communauté internationale qui vous écoute?
Ce qui s'est passé ici est vraiment terrible. Dans une situation qui était déjà terrible, la situation humanitaire de Goma était terrible avant les incidents de cette semaine-ci. Il est très difficile à ce stade, j'insiste, d'avoir une vision globale des besoins parce que les conditions ne sont pas là pour faire une analyse, mais on peut juste simplement imaginer l'ampleur des besoins au vu de ce qu'ils étaient avant et de ce qui s'est passé ces derniers jours aussi.
Stéphane Goodbure, nous disons merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
Je vous en prie. Merci à vous pour votre travail.
Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet entretien entre Ronéline Tibonera, notre reporter, et Stéphane Goubure, chef de programme MSF qui se trouve présentement au Nord Kivu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois. La coordination est signée Élisée Chikota. Je vous retrouve à 16h, heure de Kinshasa, pour un autre point de l'actualité sur Radio Okapi.